En ce 15 août, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Abbé Philippe Beitia, bonjour.
Bonjour.
Que signifie cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie?
Cette fête de l'Assomption signifie que Marie, après avoir partagé, si on peut dire, la destinée de son fils, puisqu'elle a été la mère du Christ, la mère de Dieu, qu'elle l'a éduqué, qu'elle s'est trouvée au pied de la croix, donc elle a participé à sa manière à la passion, eh bien, va participer à la résurrection de Jésus.
C'est la première ressuscitée après le Christ.
C'est la première ressuscitée après le Christ, effectivement.
On appelle aussi cette fête la fête de la Dormition de la Mère de Dieu.
Oui, il y a diverses présentations de cette fête. Les orthodoxes et les orientaux parleront de la Dormition de la Mère de Dieu. Alors derrière, il y a une très belle réalité spirituelle, c'est-à-dire que vous avez trouvé, je crois, dans une des homélies de Bossuet, par exemple, quand le Christ est monté au ciel, bien voilà, la Vierge Marie aspirait à, bon, qui était pour lors une vieille femme, selon les critères de l'époque, aspirait à rejoindre son fils, qu'il y a eu un dernier acte d'amour qui en quelque sorte accompagnait sa mort. Voilà. Donc, et donc, bien entendu, une mort très paisible que va indiquer la Dormition.
C'est le pape Pie XII qui va proclamer le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie.
Pie XII, le 1er novembre 1950, proclame le dogme de l'Assomption. Vous voyez, il ne le fait pas le 15 août, il le fait le jour de la Toussaint pour situer la Vierge Marie au milieu des saints. Voilà, comme sûrement la sainte la plus éminente. Il va le faire après avoir consulté l'Église. Il va y avoir une lettre secrète à tous les évêques du monde pour savoir ce que dans leur diocèse on croit concernant l'Assomption de la Vierge Marie. Est-ce qu'on prie Marie dans le mystère de son Assomption? Est-ce qu'il y a des congrégations religieuses qui sont sous patronage de l'Assomption, des paroisses, etc.? Est-ce que l'art, est-ce qu'on la représente dans l'art? Puis, parallèlement, Pie XII va demander aussi qu'on fasse une étude théologique de l'Assomption. Au long des siècles, qu'est-ce que les pères de l'Église, qu'est-ce que les docteurs, qu'est-ce que les théologiens ont enseigné à ce sujet pour voir si c'était définissable. Voilà. Et suite à cette enquête, donc, le pape Pie XII va proclamer donc l'Assomption de la Vierge Marie en son âme et en son corps.
Dans la liturgie de ce 15 août, l'évangile retenu, c'est celui de la Visitation.
Oui, alors dans la précédente liturgie, donc avant 1950, on lisait le texte de Marthe et Marie, le jour de l'Assomption. Bon, c'était un peu curieux, mais voilà. Elle a choisi la meilleure part, donc on jouait sur ça, mais bien sûr, c'était un peu la vision qu'avait le Moyen-Âge. Donc là, on n'a pas des tas de textes non plus sur la vie de la Vierge. Donc il y a ce texte, bien sûr, de la Visitation. Et les premières lectures, tant du 14 août que du 15 août, sont intéressantes parce qu'elles parlent de l'entrée de l'Arche de l'Alliance, soit dans le livre des Chroniques, je crois, ou dans l'Apocalypse, voilà, pour nous dire que la nouvelle arche d'alliance, qui est la Vierge, qui a porté le Christ, d'abord dans son cœur et dans sa chair ensuite, est entrée dans le monde de Dieu. Alors ce n'est pas inintéressant non plus comme thème.
Pourquoi avoir choisi le Magnificat pour cette fête du 15 août et d'où vient cette prière, ce qu'on appelle le Cantique de Marie?
Alors on pourrait très bien concevoir qu'à travers l'un des versets du Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint son nom, toutes les générations me diront bienheureuse. Ben voilà, parmi les merveilles que le Seigneur fait pour la Vierge, il y a bien sûr le fait qu'il lui donne de partager la gloire de son Fils. Quand on y regarde de plus près, je crois que c'est Don Dupont, bénédictin exégète, qui avait fait une grosse étude sur le Magnificat, on voit que la prière de la Vierge est tissée de réminiscences des psaumes. Voilà, vous avez une première partie, voilà ce que le Seigneur a fait pour Marie, et une seconde partie qui est de l'ordre prophétique. Voilà, il renverse les puissants de leur trône, et ce genre de choses. Et moi, un verset qui me parle beaucoup quand je dis le Magnificat, c'est le dernier verset. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La fidélité de Dieu. Non, c'est pas... Voilà, le Magnificat n'est pas une prière guimauve. Pas une prière guimauve, c'est une prière d'une femme forte dans la foi qui adopte les vues de Dieu. Quand on lit les prophètes, on retrouve cela à telle enseigne que, par exemple, au début du XXe siècle, certains courants idéologiques qui voulaient se servir de l'Église catholique à leur bénéfice, parler du venin du Magnificat. Ils n'en voulaient pas. Ils voulaient que l'Église soit une force un peu qui encadre les gens, et un point, c'est tout.
Cette fête du 15 août, c'est une fête qui nous invite à l'espérance chrétienne.
Oui, ça nous invite à l'espérance chrétienne, puisque dans le fond, en y réfléchissant, la Vierge s'est sanctifiée dans... si on peut dire, les travaux d'une femme de son époque, marquée sociologiquement. Et bien entendu, elle atteint, si je puis dire, le niveau le plus haut de sa sainteté, si je puis dire, hein, quand elle est au pied de la croix. Là, sa foi brille dans toute sa splendeur. Donc ça nous dit que voilà, la sainteté n'est pas une question de position sociale ou de richesse ou de pouvoir ou d'influence, mais de conformité à la volonté de Dieu, dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans la situation concrète qui est la nôtre.
La première personne finalement accueillie au royaume des cieux, c'est une femme. Après le Christ, bien sûr, mais le Christ, c'est Dieu, donc...
Non, c'est un homme, la première personne. Il y a le bon larron qui a damé le pion à tout le monde.
Donc la Vierge Marie est arrivée après le bon larron, voilà, au paradis.
Si je puis dire, mais elle a un bénéfice par rapport au bon larron, c'est qu'elle est ressuscitée en son âme et en son corps, ce qui n'est pas encore le cas du bon larron, qui est aussi une figure bien sympathique.
Et donc ça nous ouvre une espérance à nous, pour ressusciter aussi à la suite du Christ et de Marie et du bon larron.
Oui, voilà, l'Église nous invite souvent à contempler la gloire à laquelle nous sommes appelés, dans le témoignage qui est le nôtre, dans la vie qui est la nôtre et dans les épreuves qui sont les nôtres. Et contemplant donc cela, bien sûr que ça stimule, ça renforce et ça tonifie.
Merci Abbé Philippe Beita et très bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous.